Je vais vous lire maintenant dans Juges 13, la naissance de Samson. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Philistins pendant 40 ans. Dans la localité de Sora, il y avait un homme appelé Manoah qui appartenait à un clan de la tribu de Dan. Sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit « Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. » Le garçon ne devra pas avoir les cheveux coupés, car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. La femme rentra chez elle et dit à son mari : Un homme de Dieu s'est présenté à moi. On aurait dit l'ange de Dieu, tant il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Il ne m'a pas dit son nom. Il m'a annoncé que j'allais être enceinte et donner naissance à un fils. Il m'a ordonné de ne boire dorénavant ni vin, ni boisson alcoolique et de ne manger aucune nourriture impure, parce que le garçon doit être consacré à Dieu, dès avant sa naissance et pour toute sa vie. Manoah adressa alors cette prière au Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé, pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître. Dieu exauça la demande de Manoah. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme pendant qu'elle était au champ. Son mari n'était pas avec elle. Elle courut donc le lui annoncer. « Écoute, dit-elle, l'homme qui était venu me trouver l'autre jour m'est de nouveau apparu. » Manoah accompagna immédiatement sa femme, s'approcha de l'homme et lui demanda. « Est-ce toi qui as parlé à ma femme ?»« Oui, c'est moi, lui répondit-il. » Manoah reprit, « Eh bien, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devrons-nous suivre à l'égard du garçon ? Que devrons-nous faire pour lui ?» L'ange du Seigneur dit à Manoah, « Ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni boisson alcoolique, elle ne mangera d'aucune nourriture impure. Qu'elle observe soigneusement mes ordres. » Manoah dit alors à l'ange, « Laisse-nous t'inviter, nous te préparerons un chevreau. » L'ange répondit, « Même si je reste, je ne mangerai pas de la nourriture que tu me présenteras. Mais si tu veux, prépare un sacrifice complet et offre-le au Seigneur. » Manoah n'avait pas compris qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Il demanda, « Dis-nous ton nom, pour que nous puissions t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront. » L'ange répliqua, « Pourquoi veux-tu connaître mon nom ? C'est un nom merveilleux. » Manoah prépara un chevreau et une offrande, et il les plaça sur un rocher pour les offrir au Seigneur, à celui qui accomplit des merveilles. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, les flammes du sacrifice montaient de l'autel vers le ciel, ils virent l'ange du Seigneur s'élever au milieu des flammes. Alors, ils se jetèrent le visage contre terre. Manoah comprit qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. L'ange ne leur apparut plus jamais. Manoah dit à sa femme, « À coup sûr, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si le Seigneur voulait nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre sacrifice complet et notre offrande. Il ne nous aurait pas montré ce que nous avons vu, ni communiqué les instructions que nous avons entendues. » La femme de Manoah donna naissance à un fils qu'elle appela Samson. Le garçon grandit, et le Seigneur le bénit. Il se trouvait au champ de Dan, entre Sora et Eshtaol, lorsque l'Esprit de Dieu, le Seigneur, le poussa à l'action pour la première fois.
Merci Sophie pour cette lecture. Samson, ben voilà un personnage bien connu je crois. Son histoire avec Dalila est très souvent racontée dans les écoles du dimanche. Mais c'est surtout un homme tout à fait étonnant. S'il vivait aujourd'hui, je crois bien que les équipes sportives se l'arracheraient à coups de millions. Imaginez-le en tant qu'arrière de rugby. Voilà que personne ne passerait, hein, certainement. Ou bien s'il était attaquant, aucune ligne de défense ne lui résisterait. Elle serait toute enfoncée. Imaginons qu'il soit à la lutte, à la boxe, au judo. Hein, c'est les titres olympiques là, qui pleuvraient sans doute pour lui. Ou bien s'il était engagé par le gouvernement pour, garde du corps, présidentiel, ou bien membre d'un groupe de choc, hein, nul doute qu'il y aurait là bien de grandes victoires. Non, Samson est unique. Samson est unique. Jamais un homme n'a été aussi fort que lui. Déchirer un lion rugissant à main nue. Tuer 1000 hommes avec la mâchoire d'un âne. Arracher, puis transporter sur ses épaules les portes massives d'une ville de la côte jusqu'au sommet d'une montagne. Briser des liens les plus solides comme s'ils n'étaient que des fils brûlés au feu. Voilà quelques-uns de ces exploits qui nous sont racontés, des exploits qui nous laissent tout autant admiratifs que songeurs. Alors c'est vrai, beaucoup voudraient ranger Samson parmi les personnages mythologiques, tels Hercule, hein, le héros grec à la force lui aussi herculéenne. Mais c'est vrai que rien dans la Bible nous oblige à considérer Samson comme étant un personnage fictif. Au contraire, il s'inscrit naturellement dans l'histoire du peuple d'Israël, comme un homme en chair et en os, mais doté par Dieu d'une force exceptionnelle. Alors ce matin, ce ne sont pas les exploits de Samson qui vont nous intéresser, mais bien plutôt les circonstances qui ont entouré sa naissance. Parce que je crois qu'elles nous révèlent trois choses importantes. Premièrement, que Dieu est un Dieu de compassion. Deuxièmement, qu'il y a un appel de Dieu sur ma vie. Et troisièmement, que mettre Dieu à la première place est source d'une grande bénédiction. Que Dieu soit un Dieu de compassion, eh bien c'est ce qu'ont pu expérimenter Manoah et sa femme. Ce couple, vous l'avez entendu, vivait une situation difficile, douloureuse, parce qu'ils étaient sans enfants, la femme étant stérile. Et si la stérilité est déjà en soi difficile, parce qu'elle vient briser à la fois un rêve de maternité et à la fois un projet familial d'une descendance à soi, eh bien la stérilité devient encore plus douloureuse lorsque la société elle-même pose un regard réprobateur sur la femme stérile. En effet, à cette époque, la stérilité était considérée ni plus ni moins comme une punition divine. Dieu n'a-t-il pas béni Adam et Ève en leur disant « Soyez féconds, multipliez-vous ». Voilà, remplissez la terre, quel beau projet. Mais si la descendance que Dieu donne est une bénédiction, la stérilité ne pouvait donc être, aux yeux des Juifs, qu'un désaveu divin, qu'une sanction. C'est vrai que plus tard aussi, dans l'histoire d'Israël, une autre raison de la honte attachée à la stérilité sera également l'attente du Messie. En effet, chaque femme espérait donner le jour au libérateur, à celui qui était annoncé par les prophètes. La stérilité était donc une marque infamante. Alors imaginez la joie et l'espérance folle de cette femme lorsqu'un ange vient lui annoncer que bientôt elle enfantera un fils. Mais avec l'annonce de cet ange, c'est aussi cette image d'un Dieu sans cœur et sans pitié qui vole en éclats. Non, Dieu n'est pas sourd et aveugle aux souffrances des hommes. Au contraire, Dieu est un Dieu de compassion qui prête une oreille attentive aux douleurs de ce couple et qui va poser un regard bienveillant sur Manoah et sa femme. Et dès lors, ce couple pourra à nouveau donner la vie. Mieux même, Dieu va les choisir pour qu'ils engendrent le libérateur, hein, celui qui allait commencer à libérer Israël du joug des Philistins. Quel privilège, les amis! Quelle grâce aussi, parce que aucun mérite de leur part n'est mis en avant dans le texte pour expliquer un tel choix de Dieu, pour expliquer un tel cadeau de sa part. Dieu se plaît ici, mais comme ailleurs dans la Bible, à se révéler comme un Dieu bienveillant et riche en bonté. Au psaume 68, il nous est dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Orphelins et veuves étant les situations de vie parmi les plus précaires, les plus difficiles de l'Antiquité. Et c'est vrai que trop souvent, dans le monde, les riches, les puissants, les bien portants dominent, méprisent, exploitent les plus faibles. Mais Dieu, lui, a toujours eu, si j'ose dire, un faible pour les plus faibles. Oui, il se soucie plus particulièrement de ceux que l'on méprise, comme cette femme stérile, de ceux que l'on rejette, de ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux, comme la veuve qui s'occupe de guérir celles et ceux qui sont, oui, le plus gravement atteints dans leur santé, mais pour bien montrer à tous qu'il est capable de guérir n'importe qui. Et Dieu est bien un Dieu qui veut prendre soin de tous. Il veut prendre soin de chacun d'entre nous et nous entourer de son amour, comme Guy et Dominique ont pu en témoigner tout à l'heure. Et en réponse à cet amour de Dieu, les croyants sont d'ailleurs invités à marcher sur le même chemin. Selon les mots mêmes de l'apôtre Jacques, je le cite, « La religion authentique et pure, aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. » Voilà. Voilà tout simplement. Et voilà, je crois, ce qui nous interpelle. Prendre une femme stérile pour engendrer une vie nouvelle, c'est de la part de Dieu un acte de miséricorde, comme je viens de le montrer, mais c'est aussi un acte hautement symbolique. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est la source de toute vie. Dieu est le seul qui sauve de la stérilité et de la mort. Il est intéressant de relever que l'engendrement par une femme stérile apparaît quelquefois dans l'Écriture, mais à chaque fois, lorsque Dieu veut marquer une étape importante dans son œuvre de salut, sont ainsi nés d'une femme stérile Isaac, le fils de la promesse, son sang dont on parle maintenant, Samuel aussi, un prêtre divinement mandaté pour oindre les deux premiers rois d'Israël, Jean-Baptiste, qui va annoncer le Messie, et enfin le Christ lui-même est né d'une vierge. Le miracle de la naissance de Samson est ainsi l'acte de salut par lequel Dieu redonne espoir, non seulement à cette famille, mais aussi à tout son peuple, Israël. Samson préfigure ici la pleine rédemption que va opérer bien plus tard Jésus, le Messie. Oui, l'œuvre du Christ à la croix est notre espérance à nous, comme d'ailleurs nous allons le commémorer tout à l'heure au travers de la scène. Le deuxième point que j'aimerais souligner est l'appel de Dieu sur nos vies. En effet, la naissance miraculeuse de Samson est aussi une démonstration éclatante de l'appel qui est sur sa vie. Oui, Dieu a un projet pour Samson. Celui que tu vas enfanter, dit l'ange à la femme de Manoa, sera celui qui va commencer à libérer, à sauver Israël de la main des Philistins. Or, cet appel particulier sur la vie de Samson nous parle aussi du projet de Dieu, non seulement pour cet homme, mais aussi pour tout Israël, mais aussi plus largement encore pour toute les nations. Ce projet, c'est la délivrance des forces du mal et le salut en Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean va nous donner une image frappante de ce projet de Dieu pour l'humanité, dans son livre de l'Apocalypse, où Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Nous voyons combien le projet de Dieu pour l'humanité est ce désir d'une relation, d'un partage, d'une communion entre Dieu et les hommes. Mais pour vivre cette communion, la Bible nous dit qu'il nous faut d'abord être libérés, sauvés du péché qui nous éloigne de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui nous apporte ce pardon de Dieu. Et le Christ frappe ainsi à la porte de notre cœur, à la porte de notre vie, dans le désir d'y entrer pour y apporter la paix, la joie et la réconciliation. Et cet appel est adressé aux plus petits comme aux grands. Il ne dépend pas de ce que nous sommes, de nos capacités humaines. Cet appel n'est pas non plus le fruit de toute une histoire de famille, une histoire de génération qui nous pousserait dans cette voie-là. Non, rappelons-nous le cas de Samson, la femme était stérile. Non, cet appel est une grâce de Dieu sur chacun. Cet appel repose aussi, nous l'avons dit, sur la vie de Noa et de Savanna. Et nous prions pour qu'elle puisse un jour accueillir cet appel, y répondre favorablement et ainsi entrer personnellement en relation avec le Christ et avec leur Père céleste. Enfin, la troisième et dernière chose importante que ce récit nous révèle, eh bien, c'est que le fait de mettre en première place dans nos vies le Seigneur est source d'une grande bénédiction. En effet, cet appel de Dieu est aussi un appel à la consécration. Hein, ce qui devait frapper les premiers lecteurs juifs de ce récit, ce n'est pas tellement la force extraordinaire de Samson, plutôt que sa consécration totale à Dieu. Le verset 5 nous disait, dans certaines traductions en tout cas, « Ce garçon sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère. » C'est quoi un naziréen? C'est tout simplement quelqu'un, un juif, qui se consacrait à Dieu pendant une période déterminée. Et la loi de Moïse interdisait au naziréen, pendant la durée de son vœu et en signe de sa consécration vers Dieu, lui interdisait de prendre du vin, des boissons fermentées, lui interdisait aussi de toucher des cadavres et de se couper les cheveux. Or, ce qui est étonnant avec Samson, qu'il n'est pas appelé, lui, à être naziréen, consacré à Dieu juste pour une période déterminée, mais pour toujours. Samson est mis à part pour Dieu dès les premiers instants de sa vie, c'est-à-dire dès la conception. Et c'est ainsi que sa mère va être appelée à s'abstenir, elle aussi, de certains aliments interdits durant toute la grossesse, de vin. Ce n'est pas simplement des prescriptions médicales, hein, mais c'est aussi et surtout pour éviter au jeune Samson qu'elle porte dans son ventre, qu'il consomme au travers d'elle des aliments interdits. Car Samson est consacré dès les premiers instants de sa vie. Or, dans l'histoire de Samson, c'est bien cette consécration à Dieu qui est fondamentale, tandis que sa force exceptionnelle est secondaire. En fait, c'est même la première qui engendre la deuxième. C'est la consécration qui conduit à la force. Et c'était éminemment vrai pour Samson, mais c'est également vrai pour chacun d'entre nous, pour les croyants. Celui qui s'est attaché à Dieu, nous dit l'apôtre Paul, reçoit un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Le croyant est fort car Dieu est avec lui. Alors c'est vrai que dans l'histoire, beaucoup l'ont dit, Dieu est avec nous. Et ça causait bien des malheurs. Mais cette force reçue par Dieu n'est pas là pour dominer, exploiter, mépriser. Nous l'avons vu, Dieu se soucie du faible. Cette force que nous recevons parce que nous sommes attachés à Dieu est la force de l'amour. C'est la force d'aimer et la force de persévérer en toutes circonstances. La femme donna naissance à un fils, elle l'appela Samson, nous dit le texte. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. Oui, le résultat de la consécration, nous le voyons, c'est la bénédiction de Dieu. Samson est rempli de l'Esprit Saint en vue de faire la volonté de l'Éternel. Mais si Dieu appelle à la consécration, Faut-il encore la désirer? Et faut-il encore persévérer sur ce chemin? Et vous connaissez la fin malheureuse de l'histoire? Aveuglé, trompé par Dalila, Samson va perdre toute sa force, alors qu'elle le pressait moult fois de lui donner le secret de sa puissance. Lui, persuadé qu'il allait toujours s'en tirer, Samson ouvrit son cœur à Dalila et lui révéla que sa force était dans ses cheveux, qui n'avaient jamais été coupés. Alors vous le savez, Dalila, boum, le rasa et le livra aux Philistins qui se tenaient en embuscade. Et cette histoire de Samson nous montre que nos pires ennemis, ce ne sont pas tant les Philistins qui se tiennent en embuscade, ce n'est même pas forcément les charmes trompeurs d'une Dalila, mais c'est notre propre cœur avec ses faiblesses coupables. Pour Samson, c'était un excès de confiance en lui. Il croyait pouvoir s'en tirer tout seul. Or Dieu ne peut rien pour ceux qui placent exclusivement leur confiance en eux-mêmes. Proverbe 4, 23 nous exhorte ainsi à garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de notre vie. Il est en effet si simple d'ouvrir notre cœur à l'amertume, à la haine, à la jalousie, à la méchanceté, à la vengeance. C'est étonnant combien nous sommes prêts à laisser entrer dans notre cœur ce que le Seigneur a sortir miraculeusement. C'est si facile d'ouvrir son cœur à des sentiments d'infidélité, à des sentiments de découragement, des sentiments de peur, de crainte. De se laisser endormir, là je reprends l'image Samson et Dalida, sur les genoux séduisants du péché, et de lui laisser tout à nouveau de la place dans notre vie. Samson nous exhorte à ne plus ouvrir notre cœur si facilement, à n'importe quelle voix, comme Samson s'est ouvert à la voix de Dalida. Ah ben non, ça y est, je l'ai fait. De Dalila, excusez-moi. Mais ouvrons plutôt notre cœur à Christ qui frappe à notre porte. Attachons-nous à Dieu. Écoutons sa voix. Consacrons-lui notre vie. Et ça sera là pour chacun d'entre nous, une source de bénédiction jusque dans l'éternité. Amen. Et nous voulons poursuivre par la louange. Nous voulons louer encore le Seigneur pour ce qu'il veut faire dans notre vie, pour sa bienveillance et sa bonté. Que ces chants que nous puissions lui offrir maintenant soient comme aussi une réponse de notre cœur à cette invitation à le rencontrer. Amen.